France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir. Bonsoir. La première fois que j'ai travaillé ici à France Inter, c'était pour les portraits de Jean Cau et un portrait magnifique de Philippe Lançon sur sa chirurgienne. Mais Jean Cau a des trésors, des ressources infinies. Il a, en plus de tout, écrit, à mon avis, deux chefs-d'œuvre. Deux chefs-d'œuvre. Le premier, c'est le portrait de Malraux, parce que... Alors, je vous rappelle rapidement la vie de Jean Cau, fils d'une famille extrêmement modeste, qui habite autour de Carcassonne, etc. Parents communistes, ouvriers très, très pauvres. Il monte à Paris, et puis devient une grande vedette pour plein de raisons. Il a un prix Goncourt. Jean Cau va, à un moment, travailler à l'Express, et il va... Pendant la guerre d'Algérie, changer de perception, il va passer d'une gauche un peu radicale à une droite, au début centriste, puis après vraiment très très conservatrice. Mais ça m'intéresse pas du tout. Voilà, il a commencé à gauche, il finit à droite. Hugo a commencé à droite, il finit à gauche. Bon, ça met dans des états extraordinaires tout le monde. Moi, je m'en tape un petit peu, pardonnez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est leur geste de littéraire, leur génie en ce qui concerne Jean Cau. Je redis avec toute la fermeté que je peux avoir, il est d'un des plus grands portraitistes que j'ai rencontré. Et pourtant, je travaille des portraits de Saint-Simon. Pourtant, je travaille des portraits de Tocqueville, de Madame du Deffand. Mais c'est merveilleux.
André Malraux, vous étiez dans l'action. Vous êtes maintenant plutôt contemplative. Alors, la contemplation prime-t-elle l'action? Et l'action vous manque-t-elle?
Elle ne me manque certainement pas, mais c'est aussi parce que je suis extrêmement occupé à faire le con. Écrire des livres de la nature de ce que j'écris est évidemment pour moi une certaine aventure.
Malraux par Jean Cau. Il était l'hôte d'honneur de ce dîner. On l'attendait. On avait dressé l'imaginaire trépied sur lequel on ne doutait pas qu'il grimperait pour vaticiner à nos oreilles éblouies et qui, pour ne rien perdre de ses prophéties, s'agrandirait comme des pavillons. Et demain, nous serions fiers de dire « Hier, j'ai dîné avec Malraux ». Et qu'a-t-il dit ? Il a été éblouissant. Rude tâche. Malraux était condamné à être éblouissant. Mais ses travaux forcés ne paraissaient pas lui causer grande peine. L'eau est humide, le feu est brûlant, le chien aboie, le rossignol chante, et Malraux, naturellement, est éblouissant. Je ne l'avais jamais rencontré. Je l'attendais et je m'étais fait une tranquille raison. Il serait éblouissant. Il arriva. Un manteau bleu, presque noir, romantiquement froissé, jeté sur les épaules. Une mèche, savamment indocile, barre le grand front, l'énorme front bulbeux. Il doit y avoir des orages là-dessous. Les yeux noirs, un brun féroce, le teint d'ivoire, blanc cassé par l'éveil. La bouche aux lèvres minces, avalée presque. Il est entré, arrivant tout droit et éternellement de Chine, d'Espagne, de quelque maquis ou de quelque révolution dont il s'est enfui par une surprenante porte dérobée donnant sur un musée. Il s'assied sur le trépied qu'on lui avance et aussitôt il parle. Il parle, il noue, il brise, joint et torture ses belles mains dessinées par Dürer. Des mains du XVIe siècle allemand, il grogne, il éructe, des tics, il parle d'une voix basse, une voix douce qui parfois s'empâte et de s'empêtre dans leur atelier mal arrimé. Il croit tout ce qu'il dit, tout ce qu'il rêve, tout le grand désordre d'idées, de mots qu'il chevauche. Il commence volontiers ses phrases, bah, voyez-vous ce qui est très curieux. Et le voilà parti dans une cavalcade insensée au cours de laquelle il se demande gravement pourquoi on a portraituré si tard des chats dans la peinture occidentale. Des lévriers, des levrets, des bichons, d'accord, mais des chats. Et ce qui est très, 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 très curieux, vous voyez, c'est que le chat de Manet à la queue dressée et très en colère, n'est-ce pas? Alors il froisse ses mains. Je me demande en effet pourquoi le chat de Manet est en colère. Formidable problème, terrible question que je ne m'étais jamais posée. Et évidemment, je ne m'étais jamais posé ça avant de rencontrer Malraux dans le statue. C'est très étrange. On dira l'Égypte, oui, mais ce qui est très curieux, c'est qu'il faut attendre les Ming. Ouais. En Chine, avant les chats de porcelaine, ouais. Et en Europe, il faut attendre Shailen. Nous écoutons, respectueux, c'est éblouissant. Les fusées partent sans interruption. Mais quelle nuit éclaire-t-elle? Et pourquoi? Et de quelle lueur? Voyons, me dis-je, si tu te jetais hardiment dans ce flot, et si tu essayais de ramer en remontant le courant, et si tu l'interrompais? L'assistance me regarde avec réprobation. J'ose couper le sifflet à Malraux. De mémoire du vivant, on n'avait jamais vu pareille effronterie. Mais cet homme est très bon. Cet homme est très doux, très naïvement pur. De cela, je m'apercevrai et qu'il ne recèle, ce qui est d'une infinie rareté, aucune méchanceté, aucune violence. Il est tout sonore de pureté, de naïveté. Mais il ne rit jamais. Il ne rit jamais. Il a le sérieux de l'inspiré qui porte cape ténébreuse, dialogue avec les dieux, même lorsqu'ils sont de plâtre armé de fil de fer. Je le reverrai en d'autres occasions et n'hésiterai pas toujours impie à lui couper la parole, ce qu'il tolère avec une bienveillance pensive, comme si on était en face de lui un autre augure. Il écoute, le front lourd, le regard fixe sur la table ou le tapis, un doigt sur la table. Ce qui croit, mais très curieux. Ce qui est très curieux. Je m'avouerai ce que je savais, qu'il n'entend rien à la politique et à l'art, car ne l'intéresse que le grand homme. Non pas l'art, cette chose qui se regarde, mais l'artiste qui a vécu et qui est mort. Du coup, l'histoire est un roman et l'art pictural, l'histoire coloriée de l'homme. Malraux. Malraux dans l'atelier, qui serait entré dans l'atelier de Michel-Ange ou de Léonard, qui lui jetait un rapide regard au tableau, dessin, sculpture, et aussitôt parler, vélocement, parler à l'artiste ébloui. Oui. Alors je me souviens de Merleau-Ponty, qui pour plaire à de jeunes bécasses, les écoutait, l'œil philosophe, lui caqueter n'importe quoi. Quand elles en avaient terminé, il déclarait « Ça va loin, ma chère X. » Ah oui, ça va loin, ce que vous venez de dire. Et brodant tout un discours autour du stupide propos, enchantait la bécasse, ravie de se trouver si intelligente. Aussi avec Malraux, tout allait loin. Une pierre, une stèle brisée, un chat à la queue dressée, un bonnard dont il ne s'apercevait pas qu'il n'était qu'une croûte barbouillée par un faussaire, la manière qu'avait eu de cracher Mao dans une jarre disposée à ses pieds. Tout allait loin et Malraux, visionnaire, lancé sur un scénique railway, en éprouvait les vertiges. Il avait le snobisme de la tragédie et de la grandeur. D'où son attachement à De Gaulle, son emportement à fréquenter chez les Borodine, Chiang Kai-shek, Gandhi, Mao, et chez les Vinci, Rembrandt, Goya. Toute gloire défilant dans les salons de l'histoire et du génie et composant le Gotha malroxien dans lequel il est aussi difficile de pénétrer que dans celui de Charlus lorsqu'il accable Morel de sa morgue généalogique. De Gaulle, Mao, etc. Les Guermantes de Marcel Malraux et d'André Proust. Comme le prochain portrait est celui de Jean-Paul Sartre, nous allons écouter la ballade numéro 1 de Chopin au piano, comme la maman de Jean-Paul Sartre en jouait pour lui enfant, car sa maman, à Jean-Paul Sartre, était une très grande pianiste.
Sur France Inter, Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Jean-Caux l'est surtout le secrétaire de Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que pendant 10 ans, Jean-Caux a vécu quasiment jour et nuit, en tout cas jour, à côté de Sartre. Et le portrait qu'il va faire de Sartre est démentiel. C'est sublime, parce que c'est pas du tout le portrait d'un intellectuel sur un immense intellectuel. C'est un homme qui a été proche de lui sans tomber dans la réduction du mec qui connaît trop bien l'intimité du personnage et qui en fait un personnage anodin. Non, c'est pas du tout le cas.
Vous avez été pendant 11 ans le secrétaire de Sartre.
Oui.
Et vous dites, j'ai été le ministre des finances sartriennes. Mais en vérité, c'était un panier percé.
Bon, j'étais à la fois le ministre des finances sartriennes, le ministre des affaires étrangères, celui qui le mettait en rapport avec le monde extérieur. Enfin, j'étais une espèce de frégoli avec une dizaine de casquettes, quoi. Vous savez, les fonctions de secrétaire de Sartre, jamais un patron pareil ne naîtra sous le soleil. Et évidemment, en balance, un secrétaire pareil.
Le portrait de Jean-Paul Sartre par Jean-Caux. Quelques notes que je griffonne sur ce bout de papier, quelques traits, anecdotes signifiantes, réflexions miennes, rien de plus. Le modèle ne m'appartient pas et tremble trop dans les 1000 miroirs du souvenir et de ma fidélité. Et puis, il ne s'agit que de fragments d'un Sartre, le mien. Il y avait en lui, dans la force de son âge, du taureau. Ou plutôt du bouvillon. Il ne marche pas, il fonce, carré, large d'épaule, avec un mouvement du torse jeté en avant, et pourtant il y a dans son allure une danse, une succession de chutes rattrapées. Oui, c'est ça, une succession de chutes rattrapées. Sa démarche, en une très légère danse sur les petits pieds toujours chaussés de mocassins, afin de ne pas perdre son temps à faire et à défaire des lacets. Il est court de jambes, de cou et de bras. Plus tard, sur les photos de son grand âge, je verrai naître un cou maigre et décharné qu'il ne possédait pas et qui jaillira hors d'une carapace de fringues flottantes. Il a des mains charnues, courte aussi, mais musclée. La peau de son visage est épaisse et piquetée, alors que celle de son corps est d'une blancheur lumineuse. Un nez fort, oui, un nez fort, signalant, comme aurait dit Balzac, que cet homme avait de vigoureux appétits physiques. C'est vrai et c'est faux. Je pense que ce nez, cette bouche, ces gros yeux, ce front plat, sont plutôt ceux d'un dévoreur que d'un sensuel. Il fonce comme dans un tunnel dont il ne regarde jamais les parois. Il ne voit personne dans la rue. Et si vous voulez l'aborder pour lui parler ou simplement le saluer, vous devez carrément y aller de front, comme si vous alliez le heurter, sinon il passera droit, sans vous voir. Il a un tic qui toujours me fascine quand il réfléchit ou qu'il écoute. Ce mouvement de l'épaule droite soulevée en même temps qu'il écarte légèrement du corps le bras replié. Les boxeurs, gauche en alerte, ont ce mouvement du bras droit prêt à se déplier et le poing jaillira. Est-ce un tic qui date de ces temps où il pratiquait la boxe quand il était professeur au Havre? Ou est-ce parce que toute discussion, tout dialogue est pour lui un match et qu'il attend les idées et les raisons de l'autre comme le boxeur attend l'adversaire? L'idée, quand il réfléchit, et qu'il est seul ou en face d'un interlocuteur lorsque celui-ci la formule, il la laisse venir, guette ses mouvements, ses défauts, ses failles, puis soudain frappe, des deux mains, en une série, exactement comme sur un ring. Je veux dire de toute son intelligence qui foudroie, de toute sa dialectique qui impitoyablement secoue. Quand il veut faire mal, toute la gamme du corps y passe, et c'est la correction féroce, mais presque toujours il dose sa frappe. Se contente de sonner l'adversaire ou de le saouler gentiment. C'est un boxeur intellectuel prodigieux et qui ne l'a pas vu au milieu de sa forme championne se faire n'importe qui. De Aaron à Maheu, de Lacan à Kessler, tous les collaborateurs des temps modernes, ses visiteurs politiques, ses femmes, ses directeurs de théâtre, ses metteurs en scène, ses acteurs, Jean Genet, Jean Cocteau. Celui qui ne l'a pas vu, il n'a rien vu. Il ne redoutait du côté du verbe et de la verve personne, sauf ses éditeurs et le percepteur, parce qu'il était obligé de demander de l'argent au premier et d'en donner au second, et comme je me chargeais pour lui de ses basses besognes, il n'avait avec ces redoutables individus que de très rares contacts. L'argent, le dernier de ses soucis. Il avait les mains complètement trouées. Et comme j'étais aussi ministre des Finances sartriennes, j'en tordais les miennes. À chaque fin de mois tombait le chèque Gallimard et celui quand une de ses pièces était jouée de la Société des auteurs. Aussitôt distribution aux membres de la tribu qu'il entretenait. À X, qui lui avait demandé une aide. À Y, parce qu'en ce moment, il n'a pas un rond. Et jusqu'à un clochard, mais un vrai, hein, qui avait réussi à se glisser sous la corne déversant la manne et dont nous rémunérions l'ivrognerie et les aventures hospitalières avec une exacte régularité. Le fric est arrivé, demandait Sartre. Oui, bon allez, je vais faire l'échec. Et j'entendais crisser les rectangles détachés avec toujours le même ébahissement effrayé. N'oublions pas Monsieur Sémy, disait Sartre. Sémy, c'était le nom du clochard. Que nous reste-t-il ? Rien. Je suppose que vous allez me parler du percepteur. Mais oui, ne m'en parlez pas de grâce, ne m'en parlez pas. Mais vous le rendez fou ! Eh ben, dites-lui que je ne pense qu'à lui, que je déborde de tendresse pour sa personne et que nous le payerons. Vous avez bien dû devenir copain avec lui, non ? Depuis que vous vous fréquentez. Ben, il ne me quitte pas, Sartre. Eh ben, vous voyez, tout s'arrangea. Et il me tendait la liasse de chèques à distribuer à tout le monde, sauf à mon copain. Et oui, nous avions du coup des fins de mois souvent très difficiles. Dites-moi, Co, j'ai plus un rond. Il n'y aurait pas quelque chose qui traîne là ? Zéro. Merde, mais vous êtes sûr ? Mais vous avez fait la tournée. Il n'y a plus rien à racler, Jean-Paul. Bon, bah tant pis, je vais emprunter à Eugénie. Et il fonçait dans le couloir qui menait au fond du petit appartement de la rue Bonaparte. Eugénie, est-ce que vous pourriez me prêter 5 ou 10 000 francs ? Mais bien sûr, Monsieur Poulot répondait avec l'accent de son Alsace la vieille bonne, de sa petite maman, bien sûr. Mais je vous les rendrai très vite, Eugénie. Vous avez le temps, Monsieur Poulot. Et Eugénie, servante au grand cœur, à la fidélité canine, renflouait une fois de plus le navire échoué sur les sables d'une folle générosité. Générosité, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sartre ne donnait pas l'argent, il le semait. Alors pendant que la horde des petits poussets se jetait sur les cailloux d'or, elle lui fichait la paix. C'est peut-être ça, elle lui fichait la paix. Il y a un tel qui voudrait vous voir, Sartre. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Je sais pas, je crois que ça va pas, qu'il merdouille. Ben, vous croyez qu'il va me demander un peu de fric ? À mon avis, oui. Eh ben, je vais lui faire un chèque, mais pas de rendez-vous. Vous entendez, vous lui filez l'enveloppe, vous lui dites n'importe quoi. Travail, infarctus, ok ? Ministre des Finances, général de l'Armée du Salut, agent de liaison avec éditeur, directeur de théâtre, collaborateur des temps modernes, Cerbère filtrant les quémandeurs, filtrant les rendez-vous, j'étais pêle-mêle et dans le désordre, tout ça, le secrétaire de Sartre. Jamais titre ne fut plus cocassement porté. Jamais patron semblable ne naîtra sous le soleil. Chaque matin, vers les 10 heures, je grimpais les 4 étages de la rue Bonaparte. Eugénie ou ma petite maman m'ouvraient la porte, j'entrais, j'installais mon bizarre personnage de secrétaire derrière une petite table sur laquelle j'étalais des papiers, lisais le courrier, je m'occupais de n'importe quoi, de rien, en maniant le téléphone. « Salut, ça va ?» J'ouvrais la porte vitrée qui séparait la charmante pièce dans laquelle j'officiais de celle où il travaillait, meublée d'un petit bureau, d'un étroit divan transformable en lit sur lequel il dormait quand il ne découchait pas de deux chaises d'un fauteuil en cuir, au mur des étagères remplies de livres, pas plus nombreux que ceux que possède un étudiant. Sartre n'avait pas de bibliothèque, et de toute façon, l'exiguïté de la pièce l'aurait empêché d'en posséder une. Entre deux fenêtres, une gravure, la mélancolie de Durer. Sur le mur à droite, face au bureau, un tableau offert par Fernand Léger. J'ouvrais la porte, et une formidable odeur de tabac et de respiration nocturne répandue dans une atmosphère à couper au couteau me sautait au visage et à la gorge. C'était l'odeur puissante de Sartre au travail. En robe de chambre, toujours mal nouée, pas peignée, pas rasée, le grand thermos rempli de thé à portée de la main. Quand il n'avait pas découché, l'atmosphère était plus légère, mais tant sa hâte à se jeter au travail était brutale qu'il lui arrivait de s'asseoir sur la petite chaise dure derrière son bureau sans prendre le temps d'ôter sa veste ou sa cravate. Il buvait dans une seule matinée 1 litre de thé, une pipe d'écume, cigarette papier maïs, fumait comme une locomotive. Quand il n'avait pas découché, mais était tout de même rentré très tard, je le surprenais parfois lorsque j'arrivais en train de jouer du piano, seul ou à 4 mains, avec ma petite maman. Mon arrivée interrompait le concert. On claquait le pupitre. Madame Mancy, la très belle, la très grande, élégante, adorable petite maman, au port superbe, aux chevilles si fines, aux yeux si bleus, à la voix claire et musicale, s'envolait vers sa chambre et mon petit poulou vers son établi. Il arrivait aussi que ma petite maman et mon petit poulou prissent, lorsque Sartre avait dormi sur le divan de son bureau, le petit déjeuner ensemble. Ou assez rarement, il arrivait aussi qu'ils déjeunaient en tête à tête. Ces jours-là, la joie de Madame Mancy était sans mélange et des ailes la portaient. Son poulou déjeunait avec elle. Je devais vite débarrasser ma petite table pliante qu'elle convertissait, aidée par Eugénie également radieuse, en hôtel de son bonheur. De voir Sartre soit boire sa tasse de thé matinale avec ma petite maman ou s'installer en face d'elle pour déjeuner en dépliant posément une serviette, j'étais gagné par un attendrissement toujours étonné. Sartre avait une mère. Sartre avait une maman. Sartre avait une mère. Sartre sacrifiait un rite. Sartre acceptait de s'emmerder filialement avec sa pépiante petite maman. Sartre se comportait comme un fils affectueux et redevenait un enfant docile. Étrange, doux et étrange, ça collait pas avec son personnage. Cet homme qui se voulait l'artisan de sa propre création, le maître absolu de son originelle liberté, était donc né de la femme. Il avait une mère, une petite maman. Voilà qui manquait pas d'être extraordinaire. Heureusement, il n'avait pas poussé l'incongruité jusqu'à voir en sa gloire parvenu un père. Alors, si c'était un comble, Sartre prenant son thé matinal, jouant du piano ou s'installant à une petite table de poupée pour déjeuner sagement avec son petit papa. Non, non, voilà qui était proprement inconcevable. Une mère, ça va, ça passe encore qu'il en eût une. Un père mystérieux, non, ça c'était impossible. Eugénie desservait la table du petit déjeuner. Allez au boulot, il s'asseyait, se frottait le nez, manœuvrait son épaule et son bras boxeur, abaissait toutes les manettes et la machine repartait. Il écrivait, stylo tenu entre l'index et le majeur, en utilisant par kilo des rames de papier ligné. Il raturait très peu. Quand ça grinçait dans la formulation, il ne raturait pas mais recommençait toute la page. Non par goût de la propriété manuscrite, mais pour reprendre un nouvel élan sur un terrain vierge. Point de surcharge, point de rajout, point de phrase complétée en marge, des plaines blanches à boiser des mots. Puis c'était un vrai monstre de travail abattu, par pans s'écroulant en liasses, par masse soulevée à la force du stylo, cimenté à l'encre, par thé, tabac, corridrane et volonté santé de roc. Le travailleur, le terrible bûcheur, le cagneux, le normalien qui, parce qu'on le voit à la terrasse d'un bistrot à 3h du matin, a une réputation de sauteur doué, mais qui en réalité défriche, défonce et travaille comme une mule. Mais je n'ai pas le temps qu'au d'écrire cette lettre, ou de recevoir ce con, ou de déjeuner avec cet abruti. Allez, je n'ai pas le temps. Voilà. Un jour, il est assis en robe de chambre ce matin-là sur le bras du fauteuil de cuir. L'œil valide et fixe, l'œil mort encore plus mort que d'habitude. Il a la joue gauche horriblement gonflée, caricaturalement. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas beau, hein? C'est un abcès. Ça vous fait mal? Bah, c'est pas agréable. Bon, ben, on va essayer. Il s'assit à sa table de travail. Vous allez gratter? Un filet de foie fuse. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il a les dents pourries, ébréchées en chicots jaunes et noirs entre lesquels il fiche le tuyau de sa pipe et quand il rit avec des « ha 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 » très secs, ses lèvres ourlées s'ouvrent sur un gouffre. Il n'a pas le temps d'aller chez le dentiste. Il n'a de goût pour rien, ni pour la nourriture, ni pour les vêtements, pour le tabac, le whisky nocturne et la corridan matinale, quand il doit foncer plus encore pour briser l'encerclement de travaux qui l'assiègent. Il ne savoure pas. Ce ne sont pas des goûts si pratiques, mais des violences pour soutenir ou doper l'animal. Seule la philo l'intéressait. L'énorme essai truffé d'idées, son Saint-Genet par exemple, ou le parpin philosophique plus énorme encore, je dois, à mon avis, il parle de l'idiot de la famille, le livre sur Flaubert, là le bonheur de la machine ronronnant de tous ses moteurs, faisant mouvoir ses bielles, emboîtant ses engrenages, était parfait. Le reste, théâtre ou roman, n'a jamais été que terrain de conquête où son élan l'a entraîné pour y effectuer des raids. Une œuvre théâtrale, écrite sous la pression d'amis comédiennes, certains offrent des bijoux, lui, il offrait des pièces de théâtre, et puis il se repliait à l'intérieur des frontières de la patrie d'origine, d'adolescence, de jeunesse, la philo. Quand il y avait théâtre, il y avait un drame, pour cette simple raison qu'il était obligé de sortir du cercle verrouillé de la famille, d'aller vers les autres, un enfer, et de les affronter. Directeur ou directrice de théâtre, comédien, metteur en scène lui donnait l'occasion de se mettre dans des colères énormes. Les premiers n'étaient qu'insupportables mouches du coche, les deuxièmes des marionnettes vaniteuses, les troisièmes ne comprenaient jamais rien à la pièce. À partir de là, la corvée d'écriture théâtrale n'offrait que deux avantages. Une arrivée de fric et un emplâtre posé sur les démangeaisons théâtrales des amies féminines. Alors il décidait d'écrire une pièce, affaire conclue. Mais les retards s'accumulaient, les retards s'en mêlaient, mais il fallait lui arracher les tableaux au forceps. Mais on remettait la création à deux, à trois, à six mois. Mais les directeurs de théâtre en hurlaient de douleur, à prendre ou à laisser. Ils prenaient, Sartre à l'affiche, un événement. Par-dessus le marché, ils refusaient, sinon chichement, et après drame et colère butée contre la coalition formée par directeurs comédiens et metteurs en scène, respectueux de la frousse, mais s'efforçant tout de même par grignotis d'arriver à leur fin, ils refusaient de couper. « Vous êtes allé au théâtre hier à la répétition ?» me demandait Sartre. « Oui. » Jeancourt répondait « Jouvet aimerait que vous coupiez. »« Ah bon ? » ?»« Ah bon ? Ben j'en ai rajouté. Vous allez lui apporter ça cet après-midi. » Et il tapait du plat de la main violemment sur une épaisse liasse. Au théâtre, on m'attendait comme le messie. « Il a coupé. » Il a coupé, Jouvet me demandait, il a coupé, non ? Et voici même des ajouts. Je rendais la liasse à Jouvet. Il la regardait, sa bouche de carpe ouverte, ses deux yeux arrondis d'effroi, comme si j'avais déposé entre ses mains, extraite de ma serviette, une bombe à la mèche allumée. Les bras lui en tombent. Pierre Brasseur brame, qui va écrire à ce mec ? Simone Berriot en arrime avec désespoir un éternel chapeau. Terreur dans le théâtre. Seul Brasseur, épouvantablement coire devant Sartre, osait, après s'être piqué au litre de rouge, lui écrire. Lettre incroyable de démence, ivre, ruisselante d'injures, d'une écriture aux hiéroglyphes échevelés. « J'en ai marre, Sartre !» criait Brasseur. « Vous êtes un con, vous êtes le roi des connards !»« J'en ai marre, je chie sur votre pièce avec mes hémorroïdes !»« Vous entendez ?» Avec mes grappes d'hémorroïdes, je chie sur vos conneries, je vous chie dessus, Sartre, je chie sur vos conneries. Tant d'excès et sûr de retrouver à la prochaine répétition un Brasseur filant doux, le torse bombé, mais le regard en débine. Alors, des fois le matin, je disais, j'entrais et Sartre me disait, Brasseur m'a écrit. Ah oui, et alors, il me chie dessus. Et barbouille ma gueule avec ses hémorroïdes, je crois. Vous n'avez pas lu la lettre en entier ? Non, non, pas jusqu'au bout. Il a le délire trop répétitif. Lisez et vous verrez. Il n'était pas orgueilleux. Il est encore moins vaniteux. Il était absolument assuré de sa supériorité intellectuelle. Et en tout cas, dans les années 1950, de la force de son impérialisme culturel. Mais il était aussi un autre, expliquons si c'est possible. Ici, un Sartre ne prenait pas au sérieux sa personne, n'ayant aucune gloriole de son paraître, un homme jargonnant dont le jeu n'était pas sérieux par rapport à son être au monde. Là, un Sartre autre qui s'emmurait dans la forteresse de sa pensée, quitte à en rétablir aujourd'hui certaines détours d'angle avec des matériaux qu'il écartait hier de son chantier. Et dans cette forteresse, sans cesse trouée de brèches, sans cesse colmatée, un homme qui ne supportait pas que l'on critiquât les successifs avatars de sa dialectique et le dernier état de son édifice remanié, le plus gentil, le plus simple, le plus dépouillé d'attitude, le moins putain des hommes, en revers, celui qui ne supportait pas sur le ring intellectuel la présence d'un autre champion. Un Raymond Aron, par exemple. Voulez-vous que je vous dise, Jean-Co, qui est en réalité Raymond Aron ? Eh bien, c'est une supériorité qui tourne à vide et qui ne s'exerce que sur des gens qu'il considère par ailleurs comme des crétins. Gong, prière d'évacuer Aron sur une civière.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Je remercie pour cette émission Xavier Pestugia à la réalisation, Élise Christophe à la technique, Thierry Dupin pour la musique, et je continue à dire que sans Emmanuel Garacino, je ne pourrais absolument pas avoir la rigueur de venir à France Inter, qui est hyper loin de chez moi. Merci infiniment à Emmanuel Garacino. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dimanche prochain.